C'est donc Éphésiens 4, 1 à 16. Et c'est donc Paul qui parle. Je vous exhorte donc dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier. Accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu. En toute humilité, douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. À chacun de nous, cependant, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. D'où cette parole. C'est un extrait du psaume 69. Monté dans les hauteurs, il a capturé des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Il est monté, qu'est-ce à dire, sinon qu'il est aussi descendu jusqu'en bas sur la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux afin de remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et catéchètes, afin de mettre les hommes consacrés, les fidèles, les saints, en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ, dans sa plénitude. Ainsi, nous ne serons plus des enfants ballottés, menés à la dérive, à tout vent de doctrine, par le jeu des humains et leur astuce à fourvoyer dans l'erreur. Mais, confessant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Et c'est de lui que le corps tout entier, coordonné et bien uni, grâce à toutes les articulations qui le desservent, selon une activité répartie à la mesure de chacun, réalise sa propre croissance pour se construire lui-même dans l'amour. Alors nous avons commencé hier à réfléchir le matin. Un conseiller m'a dit, heureusement que c'était le matin quand même, parce que le texte il est assez ardu, comme vous avez pu l'entendre. Et c'est un de ces textes dont la richesse ne s'épuise pas. Accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu, dit l'apôtre Paul. Vous avez entendu qu'il est en prison. Il ne peut plus faire grand-chose, mais il peut encore écrire des lettres aux premières communautés naissantes. Alors hier, nous nous sommes interrogés sur cet appel reçu. Ai-je reçu un appel ? Avez-vous reçu un appel ? Alors si vous êtes là ce matin à écouter une parole qui peut être inspirée de Dieu, c'est que vous avez déjà été mis en route dans le désir d'entendre dans l'Église la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec d'autres personnes qui sont là aussi et qui forment une assemblée. Vous pouvez dire avec d'autres, je crois. Recevoir la foi est un appel en soi, et l'Église est le lieu dédié à faire grandir notre foi. Il y a 15 jours, j'étais au nord de l'Italie pour un stage de formation continue, sous forme de retraite dans un monastère un peu particulier et unique, parce que c'est un monastère bien sûr chrétien, œcuménique et mixte, avec des hommes et des femmes. Un lieu qui a été extrêmement porteur pour moi. Et nous avions un frère de la communauté qui nous donnait un enseignement le matin et l'après-midi. Et dans cet enseignement, il nous disait, en lien avec ce texte, que la raison d'être d'une église est d'aider la croissance de la foi de ses fidèles, de leur donner des outils pour qu'ils puissent croître dans la foi en Jésus-Christ. Et nous voyons dans ce texte que la foi n'est pas destinée à être gardée pour elle-même. La foi est à vivre collectivement. L'appel est à vivre collectivement. Mais pour vivre ensemble, eh bien, nous savons bien que nous avons à grandir dans l'amour. Nous sommes tous des êtres humains, nous n'avons pas grand-chose en commun. Et donc, l'exhortation, ça nous exhorte à l'humilité, à la douceur, à la patience. L'apôtre parle de se supporter les uns les autres, et en français, on a deux significations à ce mot. Se supporter, supporter les caractères des uns et des autres qui ne sont pas forcément faciles, et puis supporter, être un support, un soutien les uns pour les autres. Alors ce comportement n'est pas un but en soi. Sinon, cela devient une loi morale. Et on retombe dans l'Ancien Testament. Et Jésus nous met en garde d'avoir des principes si rigides qui nous empêchent de voir l'autre, l'être humain à aimer. Ce comportement, pourtant, est nécessaire pour permettre à l'Église de croître. Et l'apôtre nous dit, dans l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Oui, on a besoin de paix. Et puis, quand on regarde le paragraphe au milieu, on se rend compte que ce n'est que sur Jésus-Christ qu'on peut s'appuyer pour construire son corps. On a tendance à oublier des fois ça, que c'est Jésus qui est la tête de l'Église. On compte sur nos propres forces, mais non. Jésus qui est descendu plus bas que terre par sa mort et qui est un homme élevé au-delà de tout lieu connu et il remplit l'univers, nous dit le texte. Au chapitre 1 d'Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit que le corps du Christ est l'Église. Alors ce n'est pas l'Église limitée à nos institutions, c'est l'Église du Christ bien plus vaste. Et puis, ce n'est pas nous qui décidons de construire l'Église. C'est le Christ qui nous précède, nous inspire et nous montre le chemin. À nous de le laisser nous inspirer et nous donner sa force. Et ce texte nous invite à un chemin. Et en fait, le texte construit en même temps le chemin avec ceux qui écoutent, ceux qui le lisent. Il nous place, nous, dans un collectif de croyants, dans une Église qui se construit. Alors, quand on est protestant, on a tendance à privilégier la foi individuelle et personnelle, en oubliant que l'Église peut aussi être le cadre du royaume prêché par Jésus, c'est-à-dire d'expérimenter la présence spirituelle de Dieu, de Jésus-Christ, et d'expérimenter la communion avec d'autres croyants. Alors, depuis que vous ne m'avez pas vue, il y a eu l'élection du nouveau pape. Et j'ai été frappée dans l'élection de ce nouveau pape de l'attente des journalistes dans le monde entier, que ce soit des croyants, des non-croyants, des athées, des personnes d'autres religions. Et il est vrai que pour la protestante que je suis, la ferveur de la foule, quand cet homme est apparu sur la place Saint-Pierre, eh bien, m'a fait un peu peur. C'est assez vertigineux. Et pourtant, je pense qu'il y a quelque chose à en apprendre. Notamment que l'Église catholique romaine a comme force de réunir des assemblées qui se retrouvent dans le monde entier, dans une seule liturgie. De sorte que les croyants sont comme chez eux, même quand ils voyagent et qu'ils vont ailleurs. Oui, chaque Église chrétienne a ses forces. Le tout serait de le reconnaître, et je pense que l'œcuménisme peut progresser dans ce sens-là. Comme dans tout collectif qui a un but précis, chacun peut avoir sa place où il œuvre et qu'il est au service du Christ. Alors ensuite, dans la deuxième partie du texte, on nous dit que le Christ fait des dons. Il donne, qu'est-ce qu'il donne? Vous avez remarqué, il donne des personnes. Des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers, des catéchètes. des personnes qui ont un certain nombre de capacités, mais qui sont des personnes à part entière, c'est-à-dire avec aussi leur fragilité, leur faiblesse, leurs défauts. L'année dernière, il y a eu un nouveau conseil qui a été élu et il y a eu une liturgie de reconnaissance du conseil, parce que c'est un ministère collégial. Et dans cette liturgie, il y a les mots de la liturgie à la fin que je vous cite, qui vous ont dit à vous, qui étiez peut-être là, « Église du Christ, réjouis-toi pour les ministères que le Seigneur te donne. Et vous, membres du conseil presbytéral, vous n'êtes pas seuls. Réjouissez-vous d'avoir part à l'annonce de l'Évangile, le Seigneur est fidèle. » Oui, nous sommes ensemble pour transmettre l'Évangile. Conseillers, catéchètes, pasteurs, musiciens, prédicateurs, tous ceux et celles qui participent à la vie de la paroisse. Les dons du Christ sont les personnes qui assurent cette transmission à leur manière, avec leur force, à leur mesure. L'Église est ce lieu de la connaissance du Fils de Dieu, nous dit le texte. Être des adultes dans notre foi, c'est progresser dans notre connaissance de Jésus-Christ. Si je prends la foi comme un simple dogme, ou bien si je crois en un sage qui a vécu, qui a peut-être été philosophe, qu'on a appelé Jésus, peut-être que cela me servira à avoir une conduite de vie peut-être honorable et peut-être à défendre le Christ dans mes discussions avec d'autres. Mais je pense que là, je manque quelque chose, je reste à la surface. Si je prends la foi comme une relation possible à Dieu et à Jésus-Christ, une relation d'amour inconditionnel, en tout cas la compréhension que Dieu m'aime de façon inconditionnelle, alors je peux regarder l'autre autrement, comme quelqu'un qui est aussi aimé de Dieu et quelqu'un que Jésus peut m'aider à aimer, parce que le défi de la foi, c'est simplement la relation avec les autres. Tout, ça c'est la clé, tout part de là. Et l'homme Jésus est venu, justement, nous aider à accepter la réalité de notre vie, une réalité où on se confronte dans nos différences. Jésus m'apprend à être plus humain. Comme disait le frère de la communauté, le Christ m'invite à exercer une pratique d'humanité. L'appel est celui de la foi qui se dit, qui se partage, même si cela peut déclencher de l'animosité, voire des insultes, de la part d'athées qui ont eu une mauvaise expérience de l'Église. Oui, nous sommes, vous êtes, chacun, chacune des témoins. Au verset 13, quand le corps du Christ grandit, il permet à ses membres d'accéder ensemble à l'unité dans la foi. Cette unité, je la comprends dans une double dimension. Tout d'abord, une unité intérieure et personnelle, se sentir unifié par la foi. Et d'autre part, c'est arriver à s'enrichir mutuellement dans l'Église, dans le partage de notre foi en Jésus-Christ. L'unité dans la foi, c'est aussi prendre ensemble le repas du Christ, le repas de la Sainte Cène, en étant parfaitement conscient que Jésus nous permet de dépasser nos différences pour nous retrouver côte à côte, à côté les uns des autres, et lui avec nous, et en nous. Et l'apôtre en déduit que nous serons plus forts face à ceux qui essayent de nous disperser. L'apôtre dit, nous ne serons plus des enfants ballottés, menés à la dérive, à tout vent de doctrine, par le jeu des humains et leur astuce à fourvoyer dans l'erreur. Comme cette phrase est encore d'actualité aujourd'hui. Oui, dans cette pratique d'humanité, il y a bien sûr l'amour à exercer, mais l'apôtre fait le lien entre amour et vérité. Paul a dû se battre contre tous ceux qui voulaient introduire des notions erronées à l'époque, dans les premières églises, notamment sur les questions de ce qu'il fallait garder ou non en ce qui concerne les rituels juifs. Je rappelle que Paul était juif, le disciple était juif, Jésus était juif. Qu'est-ce qu'il faut garder des rituels ? Oui, la lutte contre les erreurs ne date pas d'hier. Alors, il y a les erreurs religieuses dont parlait Paul, mais aujourd'hui, combien d'erreurs à tous les niveaux nous pouvons être auxquels nous sommes sujets. La vigilance doit se faire à tous les niveaux de notre vie. Nous avons tellement de sollicitations, d'informations qui nous arrivent par tous les canaux, nous avons du mal à trier le vrai du faux. Nous prenons souvent ce qui nous arrange. Oui, la vigilance fait partie du comportement des chrétiens. Il ne faut pas la confondre avec la méfiance. C'est deux choses différentes. Mais comme au temps de l'apôtre, nous apprenons à réfléchir, à prendre du recul, à échanger avec d'autres. Et nous devons apprendre à utiliser les nouveaux outils de notre monde. Tant de choses sont à disposition, peuvent être déformées ou mal utilisées. Nous avons notre responsabilité personnelle de nous informer par des canaux certifiés, comme les journaux qui ont une vraie déontologie. Nous avons une responsabilité aussi dans ce que nous transmettons. Est-ce que je vous souvenez, il y a une passoire de Socrate, est-ce que ce que je transmets est vrai? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bon? Confessant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Le Christ connaît toutes choses. Il connaît notre vie. Il nous a donné la grâce, comme il dit au verset 17. Il sait les difficultés de notre société, les violences, les luttes qui sont les nôtres. La vérité dont il est question est celle d'un homme qui a vécu, qui est mort par amour pour nous et que Dieu a rendu à la vie éternelle. La vérité chrétienne doit toujours repartir de là. Le Christ nous montre que la vie est une lutte, mais une lutte où nous ne sommes pas seuls, une lutte avec lui, à nos côtés. L'humilité du début du texte nous permet de rester à notre place, d'être humain, et puis de lui confier notre impuissance. Oui, la vie n'est pas facile et nous avons à prendre le courage. Mais que de bonheur aussi à se laisser apaiser quand nous participons à la construction du corps du Christ et quand l'assemblée de l'Église me porte par son amour. Nous sommes toujours dans un équilibre entre le donner et le recevoir. Recevons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Renouvelons nos forces pour pouvoir donner le témoignage de son amour. Amen.